4 et au verset 20. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes, nous te remercions pour ce privilège de pouvoir te chanter, de pouvoir témoigner, d'entendre les témoignages des bonnes choses que tu fais dans les vies. Nous croyons que tu veux encore agir ce soir, Seigneur, que tu veux encore te manifester, que tu veux encore te glorifier puissamment. Sois loué, notre Seigneur, béni sois-tu. Merci pour toute œuvre de grâce, de bonté, de puissance et d'amour que tu opères encore dans la vie de chacune et de chacun d'entre nous ici présents. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. On va lire ensemble donc Proverbes chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. Amen. Nous arrêtons là, et nous revenons là simplement au verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Quelle affirmation extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Hein, c'est extraordinaire. Pensez donc que c'est mieux que le remède universel qui est recherché par tous les médecins, tous les scientifiques, depuis tous les temps. C'est mieux que le médicament miracle qui soigne tous les maux. Voilà certainement qui intéresserait beaucoup de gens. Vous savez, les gens, ils disent « bonne année » et surtout « ah, voilà hein, », les gens, ils disent ça, c'est clair. Tant qu'on a la santé, les gens disent ça aussi, et c'est vrai. Les gens se rendent compte, Tant qu'on n'est pas malade, on ne réalise pas trop. Mais quand on commence à s'apercevoir que la santé est un peu fragile, ça vaut quelque chose, la santé. C'est une valeur. Mais si ce texte est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule partie du corps, pas un seul organe, pas un seul membre, même le plus petit, que ce soit dans les os, les nerfs, les muscles, les organes, que Dieu ne veuille guérir et maintenir en bonne santé, et pour lesquels Dieu ne veuille accomplir sa promesse. Si ce texte est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas une partie de notre corps, même la plus insignifiante, même la plus reculée, que le Seigneur ne veuille faire participer de ce courant de renouvellement, de régénération qu'il fait couler pour baigner tout notre être. La puissance de guérison du Seigneur est efficace pour tout notre corps. Voilà. Et ce texte est admirable et il autorise vraiment pour chacun les plus grands espoirs. Alors que nous soyons malades ou en bonne santé, ce texte est rempli de promesses pour nous parce qu'en même temps que la vie du corps, que la santé du corps, il est aussi question de la vie de l'être intérieur. Il est aussi question de la vie de l'âme. Il est question de la vie spirituelle qui vient du Seigneur. Cette vie qui débouche sur la vie éternelle, qui débouche sur la gloire céleste. Amen. En même temps, dans le texte que nous avons lu, sont indiquées les conditions pour que cette promesse excellente puisse s'accomplir dans nos vies et s'accomplir dans toute sa plénitude. Et dans la suite de notre message, nous pourrons donc voir successivement 4 chapitres qui nous parlent des 4 grandes conditions pour que cette promesse s'accomplisse. Déjà, en premier, il est important d'être véritablement fils du Seigneur. Véritablement fils de Dieu, puisque notre texte commence par « mon fils ». Donc le Seigneur s'adresse à nous en disant cela, ou ma fille bien sûr. Ensuite, deuxième grand point, c'est l'importance de l'attention qui est apportée à la parole de Dieu, dont il est question aussi dans notre passage. Et puis l'importance aussi, en troisième, de garder la parole de Dieu. Et enfin l'importance de garder son cœur, plus que toute autre chose. Puisque de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc notre texte commence par « mon fils ». Ça veut dire que ce passage, toute cette belle promesse qui est après, eh bien, s'adresse à ceux qui sont fils et filles de Dieu. Et la grande question qui se pose donc, la première grande question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est êtes-vous véritablement, es-tu véritablement fils ou fille de Dieu ? Vous savez, moi auparavant, eh bien, j'étais coupable devant Dieu. J'étais ennemi de Dieu. J'étais rebelle aux choses de Dieu et j'avais pour père le diable. Moi, c'était comme ça. C'était mon état quand je vivais sans Dieu. Et ça se reconnaissait aux mauvaises actions que je faisais, aux mauvaises paroles que je prononçais, et puis surtout, bien sûr, aux mauvaises pensées dont j'étais capable. Voyez-vous, j'étais loin du Seigneur, je ne préoccupais absolument pas de la volonté de Dieu et de ses désirs, je ne m'intéressais qu'à faire que ce qui me plaisait, hein, ce que ça plaise à Dieu ou non. Et en tout cela, donc, évidemment, je ne pouvais pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Tant que j'en étais là, je ne pouvais pas voir les promesses de Dieu se réaliser. Mais un jour, je me suis tourné vers le Seigneur. Et pour que je me tourne vers le Seigneur, eh bien, il a fallu que je passe par la repentance et la foi. Il a fallu que je passe des ténèbres à la lumière. Il a fallu que je passe de la puissance de Satan à Dieu. Il a fallu que je me soumette à la volonté de Dieu et que je me mette, bien sûr, à aimer le Seigneur, à aimer son œuvre et à aimer sa volonté. L'évangéliste Moody était un jour en train d'annoncer l'évangile à Chicago, et en sortant de la salle où il venait de prêcher, il a vu un individu à l'air sinistre qui était appuyé contre un réverbère. Et l'évangéliste lui a mis amicalement la main sur l'épaule et lui a demandé s'il était chrétien. Mais l'homme, qu'il avait reconnu, a levé le poing et il s'est exclamé avec colère « Mêlez-vous de vos affaires !» Alors, Moody a répondu, bah, écoutez, je suis désolé de vous avoir offensé, mais pour être franc, c'est justement en cela que consistent mes affaires, montrer aux gens le chemin du salut et les inviter à croire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il a continué sa route en sachant bien qu'il ne pourrait pas faire grand-chose de plus ce jour-là. Voilà. Et puis un soir, environ 3 mois plus tard, l'évangéliste a été tiré de son sommeil par quelqu'un qui frappait à la porte. Et qui est là, a-t-il demandé ? Et alors, c'était un nom qu'il ne connaissait pas. Et que voulez-vous ? Eh bien, je veux devenir chrétien, a répondu la voix derrière la porte. Et ouvrant la porte, Moody s'est trouvé face à cet homme qui s'était si brutalement vexé de son témoignage dans la rue. Et ce visiteur est venu là, il s'est excusé de la façon dont il avait agi. Et il a avoué que sa conscience était tourmentée depuis leur première rencontre. Hein, et le Saint-Esprit était à l'œuvre dans le cœur de cet homme. Et Moody a pu le conduire à Christ. Vous savez, lorsque nous invitons les gens à recevoir Christ comme leur sauveur, nous nous occupons vraiment de nos affaires. Et je dirais même encore plus, nous nous occupons des affaires du Seigneur. Hein. Et heureusement, pour ce qui me concerne, que quelqu'un, un jour, s'est aussi mêlé de mes affaires pour que l'évangile me soit annoncé. L'évangile me soit annoncé en esprit et en vérité et que j'ai pu ainsi connaître la vie véritable en rencontrant le Seigneur. Et voilà qui est indispensable pour le salut de tout homme et surtout de chacun et chacune d'entre nous ici. Voici un témoignage encore. C'est celui depuis que sa femme lisait la Bible et fréquentait les chrétiens. Georges ne décolérait plus. Il était énervé tout le temps. Pourtant, il n'avait pas à se plaindre de sa femme, parce que plus il était brutal, injuste, et plus Mathilde se montrait pleine de douceur et de patience. Il y avait juste un point où elle ne voulait faire aucune concession, c'était la fréquentation des réunions d'une assemblée chrétienne, parce que c'était pour elle une nécessité. Et un jour, Georges s'est fâché tout à fait. Il lui a dit, si jamais tu retournes à cette réunion d'hypocrites, je viendrai t'y chercher et je te donnerai une correction dont tu te souviendras. Voilà. Tu te souviendras. Et Mathilde savait qu'il était homme à tenir parole, mais ça ne l'a pas empêché, quelques jours plus tard, alors que son mari était absent, et bien d'aller se rendre à la réunion de prière. Le problème, c'est que Georges est rentré plus tôt que prévu. Alors, évidemment, il a trouvé la maison vide, il s'est mis en colère, et il a pris une grosse canne qu'il avait là, et il s'est dirigé vers la salle de réunion. Alors il y a eu une première porte, qui donnait sur la rue, qu'il a franchie, et puis il s'est arrêté derrière la seconde, et puis là il a entendu que quelqu'un parlait à l'intérieur. Il s'est dit, bon, quelqu'un parle, attendons qu'il ait fini. mais voilà les mots qu'il a entendus distinctement. Et nous te prions, Seigneur, pour le mari de notre sœur Mathilde. Tu vois, cet homme n'est pas heureux. Fais-lui connaître ton grand amour. Voilà donc ce qu'on faisait dans cette réunion d'hypocrites, entre guillemets. Hein ? Donc, on priait pour lui. Et on priait pour lui avec quelle ferveur. Et ça, ça l'a touché vraiment. Il s'est retourné, il a repris doucement, il est sorti doucement, il a repris le chemin de la maison. Et quand Mathilde, toute tremblante, est rentrée ce soir-là, elle a trouvé Georges à genoux. Lui aussi, il avait rencontré le Seigneur. Voyez-vous, c'est ça la grande chose. Alors, tout le monde n'en est pas forcément au point d'opposition, de colère que cet homme avait avant de connaître le Seigneur, mais chacun a besoin de passer par une œuvre de vraie conversion pour devenir fils ou fille de Dieu. Et une telle œuvre, la question se pose, est-ce qu'une telle œuvre s'est accomplie en toi ? Est-ce qu'une telle décision consciente, décision qui bouleverse toute la vie, toute son orientation, est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que maintenant, ça te fait marcher réellement pour la gloire de Dieu ? Ah, s'il n'en est pas encore ainsi, eh bien, il est indispensable de te tourner aujourd'hui et sans plus tarder vers le Seigneur pour être sauvé pour l'éternité et pour demeurer, dès aujourd'hui, pleinement dans son plan et dans sa volonté, en devenant un véritable fils ou une véritable fille du Seigneur. Amen. Ça, c'est donc notre premier point. Ensuite, notre deuxième grand point que nous trouvons dans notre texte, auquel nous revenons, c'est l'importance de l'attention portée à la parole de Dieu. Quand il est dit au verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Il nous faut être attentif à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste des livres religieux. Ce n'est pas juste des ouvrages philosophiques, ce ne sont pas juste des traditions humaines, mais c'est à l'Écriture sainte, à la parole de Dieu, qu'il nous faut être attentif. Attentif, ça veut dire qu'il ne faut pas la lire comme on lirait un roman, comme on lirait un journal, vous savez, en dilettante, comme ça, mais la lire avec attention, en la considérant comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire le message de Dieu qui s'adresse à nos cœurs et qui s'adresse de façon personnelle à notre cœur. Et lire la Bible avec un esprit de prière, avec un esprit de recherche, la lire avec méditation en désirant connaître la volonté de Dieu, la lire avec fidélité, la lire avec persévérance, la lire en la considérant vraiment comme le message le plus important dont nous ayons à prendre connaissance. Vous savez, on peut regarder la Bible et vous avez des gens qui considèrent la Bible de toutes sortes de façons, hein. Là, qui la considère comme un très vieil ouvrage, voyez-vous, qui est rempli d'histoires plus ou moins passionnantes. Hein. Certains vont dire, ça permet d'étudier les civilisations anciennes du Proche-Orient. Ou bien alors, certains vont dire, c'est une mine d'informations sur la spiritualité d'un peuple, voyez-vous, sur la théologie, la religiosité des juifs, sur l'épopée du début du christianisme, et puis les gens ils vont rajouter ça à leurs connaissances, vous savez, sur des connaissances, alors ils rajoutent ça en plus, ils mettent une couche en plus de ça, et puis vous en avez, vous vont dire, c'est une histoire du monde, des hommes, on peut en faire un livre de légendes et de fables, il y en a qui disent que c'est des légendes, il y en a qui disent que c'est des fables, donc, et puis ils se distraient avec ça, ou alors ils se défont de la Bible. Mais pour le croyant, la Bible c'est bien autre chose. Pour le croyant, la Bible, elle permet la construction d'une vie, voire la reconstruction d'une vie quand c'est nécessaire, avec des effets qui dépassent l'entendement. La Bible offre des bases, et des bases solides pour cette vie et pour l'éternité. Ce livre, donc, qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs sur un espace-temps de 1500 ans, a été terminé près de 20 siècles. C'est aussi un livre qui touche, qui parle, qui bouleverse, qui révolutionne la personne. Voilà comment ça se fait que d'un seul coup, une parole sort de ce livre parmi des quantités d'autres paroles, une phrase parmi des quantités d'autres phrases. Elle nous touche juste là, dans la situation où on est, dans le problème où on est. Ça nous atteint comme une flèche en plein cœur. Et ça nous touche et ça nous bouleverse pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu, pour nous montrer ce qui doit changer, pour nous encourager, pour nous soutenir de lorsque c'est nécessaire. La Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est pour cela. Et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir donc y être pleinement attentif. Il est écrit aussi qu'il nous faut prêter l'oreille à ses discours, est-il dit là. Vous savez, il y a beaucoup de discours qui nous sont adressés, hein, de tous les côtés, plus que jamais aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez passer, vous auriez 10 vies, 20 vies, vous pourriez passer chacune toutes sur les réseaux sociaux et pourriez entendre des discours du matin au soir et toute la nuit encore. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il n'y a jamais eu une période dans l'histoire du monde où les gens ont été abreuvés d'autant de discours qu'aujourd'hui. C'est une réalité, ça. Donc, et certains de ces discours peuvent parfois, peut-être, oui, être intéressants, plaisants, attirer notre attention, mais l'important, c'est que rien n'attire notre attention autant que le discours de la parole de Dieu. Et alors, nous serons pleinement bénis. Et que nous puissions être attentifs à cette prédication et y avoir un cœur bien disposé. Sur une pierre de l'ancienne cathédrale protestante de Lübeck, en Allemagne, donc, vous trouvez l'inscription suivante. Le Christ, notre Seigneur, nous parle ainsi. Vous m'appelez sauveur, mais vous ne me laissez pas vous sauver. Vous m'appelez la lumière, mais vous ne croyez pas en moi. Vous m'appelez le chemin, mais vous ne me suivez pas. Vous m'appelez la vie, mais vous ne me désirez pas. Vous m'appelez maître, mais vous ne m'écoutez pas. Vous m'appelez magnifique, mais vous ne m'aimez pas. Vous m'appelez sage, mais vous ne m'interrogez pas. Vous m'appelez tout puissant, mais vous ne me faites pas confiance. Ne soyez pas étonnés si je ne vous connais pas. Voilà ce qui est marqué. Et par derrière, vous avez le verset de Matthieu 7 au verset 21, où il est marqué « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Que nous puissions être attentifs, frères et sœurs, à la prédication de la parole de Dieu, la recevoir de tout notre cœur, de toute notre âme, car c'est ainsi qu'elle peut sauver nos âmes et que la promesse de guérison et d'exaucement de notre texte peuvent se réaliser dans nos vies. Amen. Amen. Et puis ensuite, après avoir été attentif et avoir écouté, notre troisième point, c'est l'importance qu'il y a à garder la parole de Dieu. Puisque nous l'avons vu au verset 21, il est marqué, à propos de ces discours, « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Non seulement avons-nous vu devenir fils ou fille de Dieu, non seulement être attentif à sa parole, non seulement prêter l'oreille à la prédication, aujourd'hui par exemple, mais garder. Et comment garder ? Comment garder ? Eh bien, il faut que cela puisse pénétrer dans le cœur, est-il dit là. Hein ? Donc, verset 21, « Garde-les dans le fond de ton cœur. » Et ça se fait par une lecture régulière, renouvelée, puisqu'il nous a dit que ces discours ne doivent pas s'éloigner de nos yeux. Ça se fait par la pénétration plus profonde de nos affections, de nos raisonnements les plus personnels, de nos pensées, de nos préoccupations les plus cachées. Et ainsi, cette parole de Dieu n'y fera pas seulement une visite occasionnelle, mais elle y sera régulièrement, fidèlement et profondément maintenue, avec tous les bénéfices qui en résultent, parce que Dieu envoie sa parole et par sa parole il guérit. Alléluia. Et puis bien sûr, par la mise en pratique, qui est, dirais-je, le moyen de couronnement pour garder la parole de Dieu. En Corée, au début du XXe siècle, la Corée a été évangélisée, aujourd'hui vous avez beaucoup plus de chrétiens en Corée qu'en France par exemple, hein. Mais à l'époque ce n'était pas encore le cas. Ce n'était pas le cas, et là il y avait un missionnaire qui a vu arriver un de ces nouveaux convertis qui venait d'une campagne reculée pour se faire baptiser. Alors il a voulu examiner sa foi et la profondeur de sa connaissance de la parole de Dieu. Et voilà que ce nouveau converti lui a récité tout le sermon sur la montagne d'un bout à l'autre, en entier, comme ça, par cœur. Alors, le missionnaire était heureusement surpris. Et puis il lui a demandé, mais comment est-ce que tu as fait pour retenir tout le sermon sur la montagne en entier, comme ça ? Alors, le nouveau croyant lui a répondu, ben, j'essayais, et puis j'y arrivais pas. Et puis, j'ai des voisins qui ne sont pas faciles, hein, des voisins qui sont opposés à l'évangile, et j'ai décidé de mettre en pratique sur eux chacun des versets du sermon sur la montagne, et c'est comme ça que j'ai réussi à le retenir. Voilà, hein, voilà une bonne façon. Hein. Donc, c'est en gardant et en mettant en pratique qu'il a retenu. Et ça aussi, c'est important. Et puis, vous remarquerez une chose aussi dans ce même point, c'est qu'il est question de trouver les discours et les paroles divines. Lorsque vous regardez au verset 22, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et c'est lié directement à la vie et à la santé du corps. Et c'est ce qui explique les miracles, c'est ce qui explique les miracles de guérison. Lorsque vous avez des nouveaux qui viennent à Christ, qui découvrent la vérité de l'Évangile, qui découvrent les merveilles de la parole de Dieu et qui s'y attachent dans l'élan de leur premier amour, dans l'élan de leur cœur. Et là, Dieu fait des miracles parce qu'ils ont reçu la parole et Dieu fait des miracles. Mais l'endroit où cela est écrit qu'on trouve cette parole de Dieu nous montre aussi que d'après le contexte, il ne s'agit pas seulement de nouveaux, mais il s'agit aussi de croyants qui ont connu la parole de Dieu depuis un certain temps, mais qui la découvrent de manière plus profonde. Parce qu'ils ont cherché, parce qu'ils continuent de creuser, parce qu'ils veulent progresser. Ils découvrent donc, là, oui, certainement, de plus grandes exigences de la part de Dieu, hein, ce qui est normal, puisqu'ils ont plus de connaissances, donc plus de responsabilités. Et ils reçoivent une plus grande révélation et aussi une plus grande foi. Et à ce moment-là, eh bien, ils voient aussi les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie de chrétien, dans la suite de leur marche avec Dieu, d'une façon plus glorieuse qu'auparavant. Amen. Amen. Et enfin, notre quatrième grand point nous parle de l'importance de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie, est-il dit là. Hein, donc, c'est le verset 23. Comment faire pour garder ainsi son cœur? C'est la première question. Et la deuxième, quelles sont ces sources de vie dont il est parlé là? Deux grandes questions que notre passage amène, et ça nous est expliqué là aussi dans la suite du passage. C'est pour ça qu'on a lu pas juste ce verset-là, mais on est allé jusqu'au verset 27. Déjà, nous allons garder notre cœur en écartant de nos lèvres la fausseté et les détours, comme il est dit au verset 24. Ça veut dire qu'on va renoncer aux mensonges. Les paroles, ah voilà, on va renoncer aux mensonges, on va parler, on va marcher, on va vivre dans la vérité, dans la sincérité devant Dieu et devant les hommes. La vérité, la sincérité. Vous savez, ça, ce sont des mots qui sont extrêmement mis en question dans le monde d'aujourd'hui. Dans son roman « L'évangile de Pilate », Éric Emmanuel Schmitt met dans la bouche du gouverneur romain ce propos quand il s'adresse à Jésus. Quand Jésus lui dit « Je suis venu rendre témoignage de la vérité », voilà ce que le gouverneur romain dit. Enfin, c'est un roman, hein, mais il développe, il dit « Qu'est-ce que la vérité? Il y a la tienne, la mienne et celle de tous les autres. Toute vérité n'est que la vérité de celui qui l'a dite. Il y a autant de vérité que d'individus. » Et là, l'écrivain philosophe, donc Éric Emmanuel Schmitt, énonce une chose juste sur la vérité, c'est que chacun se forge la sienne, voyez-vous, hein ? Chacun décide ce qui, pour lui, va convenir à sa compréhension de la vie, du sens à lui donner, et ça en fonction de ce qui l'arrange, en fonction de ce qui lui semble acceptable, en fonction de ce qu'il pense juste. Et voilà, vous avez la raison qui est entre ligne de compte, la culture, l'éducation, l'affectif, tout ça, ça rentre en ligne de compte et ça fait un mélange, voyez-vous, et ça fait que chacun se donne sa définition toute personnelle de la vérité. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein ? Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, c'est comme ça que les choses se passent. Mais c'est pas récent, ça. Hein ? Ça, c'est très vieux, cette idée-là, cette pensée-là. Déjà, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Protagoras, qui était un penseur grec, a dit la définition suivante de la vérité. Il disait « Ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel les choses lui apparaissent. » Voilà. Alors, si chacun a sa vérité, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes ces vérités qui sont différentes les unes des autres, qui s'affrontent des fois les unes des autres, ça veut dire que toutes ces vérités-là, ben, elles ne sont pas si vraies que ce qu'elles prétendent être. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et puis, si elles ne parviennent pas à se compléter, ben, elles ne peuvent finalement que s'annuler. Et puis, comment voulez-vous que nous qui sommes imparfaits, qui sommes pécheurs, comment voulez-vous que nous puissions arriver à une conception juste de la vérité? Comment est-ce que vous voulez qu'on y arrive? Hein, la réalité, c'est ça. Et c'est pour ça, ça veut dire que la vérité n'est pas en nous. La vérité est en dehors de nous. La vérité est ailleurs qu'en l'homme. Hein. Et la vérité, eh bien, c'est un attribut de Dieu, intrinsèquement, c'est-à-dire que lui, il est la vérité. Jésus est Dieu, Jésus peut dire « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ce n'est pas la peine de chercher en nous ce qui ne s'y trouve pas. Hein. Soyons plutôt pénétrés de Dieu, de la parole de Dieu, attachons-nous à Jésus, et alors nous toucherons effectivement du doigt cette vérité-là. Amen. Hein, donc Jésus a prononcé cette parole, nous l'avons dit. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et donc, avec le secours du Seigneur, eh bien, il va nous falloir vivre honnêtement. Honnêtement et sincèrement. L'honnêteté et la sincérité vont ensemble. Ce sont des sœurs jumelles. Il est impossible d'être honnête sans être sincère. Il est impossible d'être sincère sans être honnête. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui est voleur, il n'est pas sincère. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les deux choses vont ensemble. Vous savez, le mot « sincère », il vient du latin « sine sera », qui veut dire « sans cire ». Je m'explique. Hein. C'est-à-dire... autrefois, donc, les anciens connaissaient le secret de la fabrication de la porcelaine. Mais à la cuisson de la porcelaine, vous pouviez avoir parfois de très fines fissures qui se faisaient dans la porcelaine. Alors, évidemment, c'était une porcelaine de beaucoup moins grande valeur. Alors, certains vendeurs escrocs, ils avaient trouvé le truc. Ils mettaient une fine couche de cire blanche. Donc, ils trempaient donc la porcelaine dans une très fine, ils réussissaient à mettre une très fine couche de cire blanche, et puis ça ne se voyait pas. Sauf si vous preniez la coupe et puis que vous réussissiez peut-être à la mettre à contre-jour par rapport au soleil, là peut-être vous pouviez peut-être voir quelque chose. Alors, les vendeurs honnêtes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils vendaient de la porcelaine et ils disaient, celle-là, je vous la vends sine sera. Ça veut dire, elle est sans cire. Elle est sincère, elle est vraie. Il n'y a pas de mensonge dedans. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde de mensonges. Il y a un ancien analyste de Google a expliqué dans un livre qui est intitulé « Tout le monde ment » qu'une grande partie de ce que nous lisons sur Internet et que nous croyons être la vérité est en fait mensonger. Car tant de personnes contribuent aux données enregistrées par les moteurs de recherche qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Et ils expliquaient en même temps, un analyste universitaire suggérait que plus de 60% des personnes sont incapables d'avoir une conversation d'un quart d'heure avec quelqu'un sans prononcer le moindre mensonge. Vous vous rendez compte ? Une conversation d'un quart d'heure, 60% des gens ne peuvent pas s'empêcher de mentir, une fois ou l'autre dans cette conversation. Et ça vous montre le monde dans lequel on est. On vit dans un monde, hein, on vit dans un monde. Et là, il faut qu'il y ait une différence qui puisse se faire. Parce que si la différence ne se fait pas, on n'arrivera pas à garder notre cœur. C'est très important. Et on ne pourra pas bénéficier de la promesse divine. C'est un grand point. Ensuite, que voyons-nous encore ? Nous voyons que il faut avoir aussi les yeux. Le verset 25 nous dit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » Et ça aussi, c'est important. Fixez votre attention sur le Seigneur. Ce n'est pas la peine de vous dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Bon, je veux bien regarder sur le Seigneur aujourd'hui, mais est-ce que je ne risque pas de perdre quelque chose ? Est-ce que je ne risque pas d'oublier ? Et puis, si je regarde en arrière, Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut savoir cela. Hein ? Donc, ce n'est pas en regardant de tous les côtés et dans tous les sens, mais il nous faut fixer notre attention sur le Seigneur. Sur ce qu'il met devant nous, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Hein ? Oubliant ce qui est en arrière, dit l'apôtre, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, vers la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est marqué « Considère le chemin par où tu passes », est-il dit encore dans le début du verset 26. C'est quoi ce chemin ? C'est Jésus le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il nous faut considérer ce chemin. Il faut le respecter déjà, et puis il faut y entrer, il faut y marcher. Vous savez, large est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Les gens qui réfléchissent à rien, Les gens qui foncent comme ça dans la vie, simplement, au gré de leurs envies, au gré de ce qui leur passe par la tête, les voilà qui sont sur le chemin large qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Étroit et resserré. Et il y en a peu qui le trouvent, est-il dit. Ça veut dire qu'il faut le chercher. Et une fois que vous avez considéré, que vous avez trouvé ce chemin, eh bien, avec le secours de Dieu, marchez-y. Amen. Et comme vous avez reçu Christ, eh bien, ainsi, marchez en lui. Alléluia. Et c'est de cette manière-là que vous expérimenterez les promesses de Dieu. C'est de cette façon-là que vous pourrez voir le Seigneur vous bénir et accomplir pleinement ce que notre texte béni nous dit. Amen. Et puis, il nous est parlé aussi de régler notre vie après. Dans le verset 26, « Que toutes tes voies soient bien réglées. » Alors, vous allez me dire, mais ça, c'est pas possible, ça. Comment est-ce qu'on peut régler toutes ces voies? Et puis là, nous voulons encore sous des règles, nous voulons encore sous des lois. Non, 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 c'est pas comme ça. Vous savez, on a besoin de garde-fous dans l'existence. Hein, on a besoin de barrières, à un moment sur les côtés, pour nous éviter le péril, pour nous éviter le danger. Lorsque Dieu met des commandements dans l'Écriture, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous rendre malheureux, c'est pour nous conduire dans le bon chemin. C'est pour pouvoir nous bénir derrière. Hein, et nous bénir la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse en être ainsi. Alors, encore une fois, rappelons-le, la première chose, c'est la nouvelle naissance. Votre vie ne pourra pas être bien réglée si vous n'avez pas déjà reçu Jésus-Christ au départ. Si vous essayez de régler votre vie sans avoir reçu Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, ça va être un peu un commandement ici, un peu là, règle sur règle, loi sur loi, puis vous n'obtiendrez rien du tout. Hein ? Mais il est important que vous naissiez de nouveau. Et pour cela, il faut que vous veniez à Jésus. C'est M. Spurgeon donc, qui racontait l'histoire d'un missionnaire qui était allé visiter quelqu'un dans une hutte primitive. Et il était un peu dégoûté par le sol crasseux sur lequel il devait s'asseoir. Alors il a suggéré à son hôte de frotter le sol avec de l'eau, du savon. Mais cet homme lui a répondu, mais non, c'est de la terre battue. C'est de la terre battue et séchée. Si vous mettez de l'eau, ça va devenir de la boue. Et plus vous essayerez de laver, et plus vous ferez du gâchis. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin, la hutte ? Elle aurait tout simplement eu besoin qu'on y mette un nouveau plancher. C'est ça qu'elle aurait eu besoin. Et puis je dirais, c'est la même chose pour le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est dur, il est sec. Et on ne peut rien faire pour le changer, on ne peut rien faire pour le transformer. L'homme a besoin d'un cœur nouveau. Il a besoin de naître d'en haut. Et quand ce cœur nouveau est là, alors sur cette base-là, alors oui, là, de cette manière, alors le Seigneur va nous aider à établir ces règles pour que nous ne donnions pas accès au diable, parce que nous n'irons pas ses desseins. Et alors, dans nos rapports avec nos proches, dans nos rapports avec ceux qui sont plus éloignés, dans le cadre de l'Assemblée, nous allons avoir ces règles bénéfiques, ces règles d'amour pour établir de bonnes relations, dans la gestion de notre temps, dans la gestion de nos biens, de nos finances. Vous savez, quand il est marqué « que toutes tes voies soient bien réglées », ça veut dire que Dieu veut faire son œuvre dans tous les domaines de notre vie. Il veut agir dans toutes les situations de notre vie, dans la manière dont nous occupons de notre corps, dans la manière dont nous allons faire notre travail, dans les services que nous pouvons rendre aux uns et aux autres, dans l'œuvre du Seigneur, dans l'évolution nécessaire de notre caractère. Là aussi, c'est vrai. Hein, en toutes choses, méthodiquement et pratiquement, eh bien, les règles bénies de la parole de Dieu vont pouvoir être ainsi mises en œuvre. Et c'est le désir et la volonté de Dieu. Amen. Alors en conclusion, eh bien, ces sources de la vie qui sont dans nos cœurs, rappelons-les et attachons-nous-y. Rappelons-les. Le premier, c'est l'amour ardent de la vérité. Le fait de garder le Seigneur et son œuvre comme objectif unique. Le fait de considérer le chemin qu'est le Seigneur Jésus. Et le fait de se mettre dans cette bonne disposition pour que le Seigneur puisse mettre ses règles bénéfiques dans notre vie. Et c'est ainsi que s'accomplira pleinement cette promesse. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Hein ? Et je donne un dernier témoignage. Ma maman, elle fabriquait un gâteau excellent. Très bon gâteau. Et puis, je lui ai demandé la recette. Et puis, elle m'a donné la recette. Et puis, j'ai donné la recette. Il y a des gens qui me demandaient, j'ai donné la recette aussi. Et puis, à un moment, il y a une personne qui était venue, mais écoute, il n'est pas si bon que ça, ce gâteau, finalement. Alors, J'étais surpris parce que je me dis, bon, je sais pas, tous les goûts sont dans la nature, c'est vrai, mais bon, c'est quand même bon ce gâteau. Par contre, j'ai interrogé un peu, puis j'ai demandé, mais en fait, vous savez ce qu'elle avait fait? Elle avait remplacé certains ingrédients par d'autres à son idée. Ah ben voilà. Ah voilà. Ah, faut pas qu'on fasse comme ça avec la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Faut pas qu'on fasse comme ça avec hein, parce que l'apôtre Pierre nous donne par exemple une recette pour une vie chrétienne efficace. Et les deux ingrédients principaux que Dieu fournit sont d'une part la puissance divine, hein, c'est dans 2 Pierre 1, verset 3, et ses précieuses promesses. Et si on incorpore minutieusement sa puissance et ses promesses à notre foi et à notre vie, alors, oui, alors il y a une œuvre qui va se faire en nous, va ressembler de plus en plus au Seigneur. Et après, Pierre énumère d'autres ingrédients qu'il nous faut ajouter à notre foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Et si on les inclut tous, au fur et à mesure, hein, sans faire le nez, sans vouloir en changer l'un par autre chose, eh bien à ce moment-là, c'est vrai, on ne sera pas stérile, on ne tombera pas dans notre marche avec le Seigneur, mais on sera véritablement béni et approuvé de Dieu. Et c'est là son désir. Ne changeons pas les ingrédients de Dieu pour ensuite s'en prendre à la recette, hein, et lorsque les choses vont pas bien. Suivons donc plutôt ces instructions à la lettre, et cette recette engendrera la réussite spirituelle. Amen. Hein. Donc que le Seigneur puisse bénir chacune et chacun d'entre nous, pour que nous puissions saisir aussi cette bonne parole. Amen. Te remercions, Seigneur, parce que c'est là ta volonté, c'est là ton désir encore aujourd'hui, nous le croyons, Seigneur. Oui, c'est vrai que si ces choses, nous les gardons dans le fond de notre cœur, eh bien, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Nous avons besoin de ta vie, notre Dieu. Nous avons besoin, les uns ou les autres, spécialement d'intervention dans notre santé, c'est vrai. Mais nous avons tous un immense besoin que ta vie soit en nous, la vie véritable, parce que sinon c'est juste une existence. Mais Seigneur, tu veux plus qu'une existence, tu veux la vie véritable pour chacune, pour chacun. Merci mon Sauveur, béni sois-tu Jésus. Et merci parce que maintenant encore, ceux qui se saisissent de cette parole et qui la serrent dans leur cœur, je sais que tu vas les visiter et que tu vas le faire bénéficier de ta merveilleuse promesse. Sois loué, sois glorifié notre Dieu. Amen, Jésus, alléluia.